écoutez le 38e épisode de BCBT le podcast. Le podcast de toutes les silhouettes, tous les corps, toutes les femmes, car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité corporelle et souhaitant vous aider à être davantage en harmonie avec votre propre corps. Dans cet épisode, j'inaugure un peu un nouveau format. C'est toujours une interview, comme j'en ai déjà fait un certain nombre, mais plutôt une sorte de conversation brainstorming autour de la question du rapport au corps et de comment donc être mieux avec son propre corps. Et j'ai préféré vous proposer l'entretien en un seul épisode, contrairement à ce que j'avais fait parfois précédemment pour des entretiens un petit peu longs. Et donc c'est un peu plus long que mes épisodes habituels. Et si vous voulez, vous pouvez me faire un retour pour me dire si ça vous convient ou pas, ou si ça perturbe vos habitudes. Et alors dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Robert. Marie Robert, je crois que je l'ai découverte via son compte Instagram, intitulé « Philosophie is sexy », où elle poste chaque matin un message qui est profond, lumineux, inspirant et qui ouvre vraiment la porte à des réflexions. Et puis, je suis allée l'écouter dans une conférence sur la beauté et c'était tout à fait passionnant. Elle a parlé histoire de la beauté, rapport nature, culture, poids de la société, comment se recentrer sur son ressenti. Et j'ai senti alors vraiment une proximité avec mon travail. Et donc je lui ai proposé de venir partager quelques réflexions sur ce podcast et elle m'a fait le grand plaisir d'accepter. Je suis allée la rencontrer dans l'école parisienne qu'elle dirige. Elle se partage entre Paris et Marseille. Et ça a été vraiment un bonheur d'échanger avec elle. Je trouve que c'est une personne vraiment lumineuse, inspirante, pleine d'idées originales et vraiment intéressantes. Et elle a vraiment toujours des mots très très justes. Donc, bonne écoute. Bonjour Marie, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur BCBT le podcast parce que tu es une personne tellement lumineuse qui ravit mes matins sur Instagram et puis tu as aussi plein d'autres casquettes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Quelle chance j'ai d'avoir une si belle introduction. Merci à toi surtout de m'inviter et c'est toujours un bonheur d'échanger. Alors pour me présenter rapidement, je crois que le fil conducteur, j'ai beaucoup d'activités. Mais le fil conducteur, c'est la transmission. Alors ça se matérialise d'abord la transmission en étant directrice pédagogique de deux écoles Montessori. J'ai créé avec mon mari, une à Marseille, une à Paris. Donc ça, on est vraiment dans l'enjeu d'avoir des enfants entre 3 et 12 ans. La transmission se matérialise aussi parce que moi j'enseigne. J'ai enseigné longtemps à la fac, puis au lycée. Et puis je continue à enseigner sous forme d'ateliers philo dans les écoles, mais aussi sous forme de conférences, de petits déjeuners, enfin voilà, plein de moments d'échange différents, de moments de transmission aussi avec mes équipes, etc. Et puis le troisième pilier de la transmission, c'est évidemment à travers les livres. Je suis en train de préparer mon troisième, j'en ai écrit deux premiers. Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo et Descartes pour les jours de doute. Et à chaque fois, l'idée, c'était de mettre de la philosophie, de la faire redescendre, de la désacraliser et de la mettre au cœur de notre vie.
C'est vraiment tout à fait pour ça que je t'ai proposé de participer à ce podcast. Ça peut paraître un petit peu curieux dans la question du corps, de la minceur, de la beauté, de parler philosophie. Mais je crois que c'est vraiment ton idée, que la philo, elle peut vraiment nous aider dans le quotidien et que ce n'est pas rébarbatif et compliqué. Et donc, je voudrais qu'on parle un petit peu de la question de la beauté et du fait que, déjà, à toute époque, il y a des standards de beauté, donc on ne va pas refaire toute l'histoire, mais la question c'est, est-ce qu'on en a vraiment besoin de ces standards de beauté ? Pourquoi il y a toujours des normes qui sont, au fil du temps, dans les derniers temps, des femmes minces, mais des femmes minces et musclées, ou des femmes minces avec des formes, mais toujours des standards qu'on essaye de nous imposer ? Pourquoi une société a besoin de ça ?
T'as complètement raison, il y a toujours eu des standards. Pour ceux que ça intéresse, je recommande souvent le livre de Georges Vigarello, Histoire de la beauté, où il décrypte vraiment toutes les tendances hein, de la préhistoire, en passant par l'Antiquité, la Renaissance. Et en fait, ce qui est troublant, c'est qu'on identifie à chaque fois un type de beauté. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se pose la question, effectivement, pourquoi ce type de beauté ? Mais tout simplement parce que c'est comme si c'était rassurant. Mmh. De toute façon, l'identification des normes, on crée des normes parce que ça nous rassure. Parce que comme ça, il y a une limite, il y a une frontière à avoir, et qu'en fait, les normes nous dispensent un peu de réfléchir. Mmh. Alors, je caricature, mais il y a quand même beaucoup ça. Si on se dit l'idéal de beauté, c'est une femme mince et musclée, eh ben on va établir un programme à la fois diététique et à la fois sportif pour atteindre cette norme-là. Et ce programme qu'on va faire plus ou moins sérieusement tous les jours va nous éviter de se dire, d'avoir en fait ce dialogue, cette introspection avec notre propre corps et avec notre esprit, de dire comment je me sens bien, quelle est ma morphologie, qu'est-ce que je porte à travers mes kilos en plus ou mes kilos en moins, à quel moment moi je me sens séduisante, attirante. En fait, les normes nous dispensent des questions.
Tout à fait, mais du coup, et c'est, tu as complètement raison, et du coup c'est très difficile de s'éloigner des normes, et que ce soit la norme enfin, de minceur et donc d'être très grosse, mais aussi, j'ai fait un épisode récemment, d'être très très mince, mais du coup, pourquoi, enfin, c'est justement par rapport à ce que tu dis de rassurant, pourquoi c'est si difficile d'accepter ces personnes qui sortent des normes ?
C'est difficile parce que ça nous... Tu sais, ça me fait penser exactement, en fait j'allais dire c'est difficile parce que ça nous déstabilise, parce que voir quelqu'un qui sort des normes, ça nous renvoie, on a des neurones miroirs, hein, ça nous pose toujours la question sur nous-mêmes. C'est exactement, j'allais te dire, c'est comme quand on travaille avec des enfants, ce qui est très déstabilisant quand on travaille avec des enfants, et encore plus avec des adolescents, et encore plus avec des enfants et des adolescents un peu atypiques, c'est qu'ils vont pile là où ça gratte, ils vont pile dans notre faille. Et en fait, il y a des adultes, et moi qui m'occupe justement beaucoup de formation des profs, qui trouvent ça insupportable. Donc ils vont dire « Ah, mais il est insolent, il est ceci, il est cela. » Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie, ça nous pousse dans nos retranchements. Mmh. Et quand on voit quelqu'un qui ne correspond pas justement à cette norme, en fait, on a un mouvement presque de rejet, parce que tout d'un coup, on est confronté à cette altérité. Et cette altérité, et là, pour le coup, c'est très philosophique, et c'est vraiment Lévinas hein, qui explique bien... mon je et l'autre en fait. Dans le visage de l'autre, c'est moi que je dessine. Donc quelqu'un de très gros ou quelqu'un de très mince me pousse dans mes limites. Pourquoi cette grosseur me pose un problème en fait ? Est-ce que moi justement j'ai l'impression de devoir correspondre à une norme alors que je pourrais avoir des kilos en plus ? Est-ce qu'à l'inverse ça me renvoie peu importe, en fait, ça peut renvoyer à tout un tas de choses.
Mais du coup, il y a cette question de l'altérité, mais en fait, comment ça se construit ? C'est-à-dire que toi, tu vois ici, puisqu'on est dans une des écoles de Marie, tu vois des tout petits enfants, et je me dis, les enfants, ils ne sont pas encore formatés par la société, ils vont être très vite formatés par leurs parents, bien sûr, mais comment ça se passe justement dans le rapport aux autres ? S'il y a un petit enfant qui est plus grand, plus petit, plus gros, comment ça se passe ?
Alors ça, c'est assez intéressant aussi. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a vraiment un âge de la construction sociale, un âge où tout d'un coup, on regarde l'autre. Hein. Donc vers 5-6 ans, ça devient de plus en plus marqué. Et en fait, c'est pour ça que je dis que souvent, les enfants sont beaucoup plus philosophes que les adolescents ou les adultes, parce qu'ils posent question. Alors déjà, directement et ouvertement. Donc déjà, on n'est pas dans un tabou, on n'est pas dans un commentaire. On est vraiment dans un pourquoi. Et dans un pourquoi qui est totalement honnête, en fait. Dans un pourquoi toi tu es comme ça. Donc là on est dans ce rapport introspectif dont je parlais. On est dans, moi ça me questionne que tu sois beaucoup plus grand. On a une petite fille ici qui a 3 ans et qui est vraiment très grande. C'est-à-dire que tout le monde, tous les adultes pensent qu'elle a au moins 2 ans de plus. Ce qui est un peu problématique d'ailleurs parfois dans le rapport parce qu'on lui attribue des choses. Et donc l'autre jour effectivement, typiquement ce que tu décris, un enfant lui dit « Mais toi t'es très 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 grande toi !» Et vraiment, et pourquoi tu as été si grande ? Pourquoi tes parents t'ont fait si grande ? Et donc, elle a pu raconter, mes parents sont très grands eux aussi. Et donc, donner une explication. Ouais. Et là, non seulement on est dans l'introspection dont je parlais, mais on est aussi dans la reconnaissance identitaire de l'autre. L'autre Exactement. Est reconnu dans ce qu'il est puisqu'on lui soumet.
Exactement. La question. Et on lui dit voilà, sans du coup, voilà. C'est sans explique-moi. Jugement, sans arrière-pensée. Explique-moi. C'est juste, bah, t'es pas comme moi, explique-moi.
Ça m'intrigue. T'es un autre. Bah,
mais alors du coup, comme tu as affaire à différents âges ouais. et aussi aux adolescents, à quel moment ça se déforme ça?
Alors, j'aime beaucoup les adolescents et j'aime plutôt être optimiste, mais très honnêtement, ça se déforme de plus en plus tôt. Ça fait maintenant pas mal d'années que j'enseigne et généralement, c'était vraiment vers 14-15 ans que le regard de l'autre devenait plus marqué d'une manière un peu plus problématique et justement plus normative. Et aujourd'hui, j'ai tendance à constater que c'est de plus en plus tôt. Donc au lieu d'être sur du 14-15, on est de plus en plus sur du 11-12, voire même du 10-11 dans certains cas. Alors j'aime pas les procès, j'aime pas simplifier. Effectivement, je pense que la visibilité, les réseaux sociaux, l'exposition en fait à tant d'images, que ce soit à travers la pub, à travers les réseaux, à travers aussi la société adulte qu'on construit, hein, parce que Bien les sûr. Adolescents sont le réceptacle de ce qu'on a construit autour d'eux. Donc ça me fait toujours rire quand on est si accusateur sur les ados sont morts, ne sont plats, sont ceci, sont cela. Bah, ils sont nous, en fait. Donc, bon.
Absolument.
Donc ça, il faut quand même bien le dire. Et surtout, effectivement, c'est de plus en plus tôt. C'est de plus en plus tôt, et en fait, le problème d'une pub... ou le problème de sur des réseaux sociaux, d'images, de photos, c'est que justement, il n'y a pas ce que je disais. On ne peut pas poser la question. Quand pourquoi on voit juste une image sur Instagram, on ne peut pas dire pourquoi toi, t'es comme ça. Alors oui, ok, on peut mettre en commentaire, mais enfin, l'interaction n'est pas du tout la même. Donc, on n'a pas cette construction, en fait, d'un dialogue commun.
D'un dialogue, effectivement. Mais justement, donc on parlait d'Instagram et tu y es présente. Est-ce que... Comment tu vois en particulier ce réseau social-là? Parce que je dirais qu'il y a un petit peu deux aspects. C'est-à-dire que il y a de plus en plus d'images et d'images aussi de perfection, de vie parfaite, de corps parfait. Et en même temps, il y a une liberté de montrer plus de diversité et du coup, toutes sortes de corps, de silhouettes, de femmes. Est-ce que du coup, ça a quand même des côtés positifs, ce réseau
Alors,
social ?
Très sincèrement, je vais te dire, moi, Instagram me fascine parce que c'est un outil fascinant. Instagram... et vraiment ce qu'on en fait. Donc, pareil, encore une fois, il n'y a pas la condamnation, c'est juste un support. On en est encore, même si le réseau est bien installé, je crois qu'on en est encore à ses balbutiements, malgré tout, et on est encore en train de se questionner, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit effectivement les tendances que tu décris, d'une volonté, en fait, ça nous a tous transformés en propres éditeurs de notre vie. C'est ça qui est compliqué. C'est que tout d'un coup, on devient éditeur. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est pas joli? Est-ce que je poste 3 photos? Est-ce que j'en poste une? Est-ce que je poste des paysages? Est-ce que je poste moi? Plein de questions. On devient tous DA. Et c'est pas très simple parce qu'en fait, on n'avait ni la formation ni les compétences forcément pour ça.
Absolument.
Donc, ça interroge, ça interpelle. Moi, c'est comme tout, je suis absolument convaincue que non seulement Instagram est un outil, mais ça peut être une tribune pour créer du contenu. Moi, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, alors modestement, sans faire une leçon, mais en faisant une proposition. Ça peut être un super endroit d'échange, de rencontre, de partage. Très sincèrement, il y a des interactions qui sont quand même formidables. C'est un endroit de créativité, et je le vois aussi chez les adolescents. Et alors là, ça va être le côté positif. C'est que tout d'un coup, bah, ils peuvent s'inventer un espace qui est différent de ce qu'ils ont à la maison, de ce qu'ils ont éducativement, dans un carcan familial. Et ça, c'est formidable, parce qu'on peut créer. Et on peut créer une image de nous-mêmes. Alors, bien entendu, c'est une image. Mais parfois, on a besoin d'en passer par là pour se questionner, s'interroger, se dessiner ses contours autrement. C'est aussi une tribune extraordinaire pour avoir des idées, en fait. Des idées, alors, de resto, des idées de recettes, des idées de sorties, des idées de lecture... C'est encore une fois, en fait, Instagram est un outil à l'image de notre société.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on veut en faire?
Et qu'on peut utiliser librement, mais justement, si on revient alors aux ados et peut-être aux adultes et aux femmes, et quand tu dis créer une image de nous-mêmes, comment arriver, alors c'est la réponse est sans doute pas simple, à créer cette image de nous-mêmes qui soit... qui acceptent de ne pas être complètement dans les standards, donc de se donner une marge de liberté, en fait, par rapport à l'image qu'on veut donner. Est-ce que cette liberté, elle fait peur, justement? Est-ce qu'il y a une peur du rejet par rapport à ce que tu disais tout à l'heure?
Je pense qu'effectivement, il y a une peur du rejet, mais que, en fait, même si Instagram peut être un espace violent, c'est aussi un espace où l'atypisme, même si, bon, alors, ce mot mériterait qu'on fasse un podcast en entier pour dire, mais en fait, est-ce que ça a vraiment sens?
Mais j'avais aimé, parce que tu as fait un post là-dessus sur Instagram, et comment accepter son atypisme corporel, si on peut
complètement
dire.
Complètement. Et en fait, je crois qu'Instagram est aussi un bon espace, parce qu'en fait, on se rend compte que... Quel est le risque? On poste une photo. Alors, j'ai une adolescente, mais c'est valable pour les femmes, hein, pour toutes, qui postent une photo d'elle tous les jours. Alors, c'est assez saisissant, hein, et je l'ai beaucoup questionnée, je l'ai beaucoup interrogée. Parfois, pas du tout maquillée, parfois son ventre avec un peu des bourrelets, parfois, au contraire, hyper canon. Et en fait, quand on prend toutes ces images sur son fil, bah ouais, voilà, je suis tout ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire finalement, en postant cette photo d'un jour où voilà, on n'a pas forcément un physique qu'on juge idéal.
C'est intéressant, plus, du coup, elle rejette l'idée de perfection.
Exactement.
En disant, effectivement,
en mettant
je
tout.
Suis multiple.
Je suis multiple. Il y a des jours où je me sens vraiment hyper jolie. Vraiment, je suis ultra bien maquillée, hyper jolie, puis il y a des jours, et en fait, je suis tout ça. Et en fait, tout le monde est tout ça.
Et si on sort d'Instagram et dans la vraie vie, est-ce que c'est pareil? Mais justement, est-ce que cet atypisme, il doit se manifester par les vêtements, le maquillage, ou est-ce qu'on peut juste être soi ou...
En fait, je crois que il y a peut-être sans doute une vertu auquel je crois beaucoup. C'est l'humour. Et l'humour, dans ce qu'elle apporte de décalage, en fait. Ce qui m'intéresse dans l'ironie ou dans l'autodérision, ça ne veut pas dire ne pas se prendre au sérieux et se déconsidérer. Ça veut juste dire, mais tout ça est un jeu. Les vêtements sont un jeu, le maquillage est un jeu, la coiffure, c'est un jeu. Et en fait, c'est en acceptant justement de jouer qu'on déconstruit aussi la norme. On tente. On teste. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'à l'adolescence, on voit peut-être il y a un peu plus de liberté. Et ce qui est compliqué, c'est de restaurer ça dans un monde d'adultes. Où, professionnellement, le matin, quand on va au boulot, c'est difficile de se dire « Aujourd'hui, je vais être quelqu'un d'autre, je vais avoir un autre style. » Et c'est ça, pourtant, qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire cette marge de recul, d'humour, d'ironie. Donc, ça me semble intéressant, en fait, de se dire... On peut jouer. Et s'accepter, c'est aussi peut-être apprendre à jouer. Parce qu'en jouant, en se mettant en scène, on arrive aussi à chaque fois à se poser la question, comment je me sens le mieux? Est-ce que c'est avec cette tenue? Est-ce que c'est avec une autre? Est-ce que c'est aussi un apprentissage de la connaissance de soi? Sauf que c'est hyper dur. Et c'est... là, on en vient à quelque chose qui me tient à cœur. C'est hyper dur de se connaître.
Mais voilà, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est comment, quand est-ce que je me sens bien? Donc, par les vêtements ou par rapport à mon ressenti corporel, c'est-à-dire d'arriver à peut-être sortir de juste un regard sur son corps, mais plus du ressenti et de l'introspection. Mais ça, c'est quoi? C'est un entraînement?
C'est une chose, mais je sais que c'est une chose qui te tient à cœur, c'est cette idée d'écoute, en fait. Il n'y a pas un bon plat, il n'y a pas un bon régime, il n'y a pas une bonne tenue, il y a juste s'écouter. Et en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve ça très difficile, en fait. Moi, je lutte beaucoup contre le être soi-même. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis à peu près 12 personnes dans une matinée. Donc, bon, c'est compliqué. Je ne sais pas vraiment. Mais par contre, il y a cette exploration. C'est pour ça que j'aime parler, et là on en revient à quelque chose d'ailleurs de philosophique, hein. C'est notamment un auteur comme Merleau-Ponty qui dit « tout passe par les sens ». Et on apprend, on découvre le monde.
Les sens ou l'essence?
Les sens, le goût, la vue, le toucher, mais les sens aussi, ce serait pas mal. Et en fait, il y a l'idée, j'aime justement inciter les gens à, et encore une fois, quand je dis inciter les gens, c'est souvent inciter mes élèves à explorer, voilà. Tenter. Et c'est pareil dans le domaine alimentaire, d'ailleurs. Et moi, c'est une chose que je m'applique aussi à faire pour moi. à me dire, bah, ok, qu'est-ce que j'aime, comment je me sens après avoir mangé telle ou telle chose. Et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, non seulement on fait des découvertes, et puis peu à peu, on travaille cette capacité d'écoute. Au départ, ça paraît vraiment extrêmement étrange que de se dire... comment je me sens après avoir mangé ma banane écrasée. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on peut l'appliquer à tous les domaines de la vie. Comment je me sens après avoir vu telle ou telle personne.
Exactement. Et comment je me sens aussi quand je me regarde dans la glace. Complètement. Et justement, c'est, comme tu dis, c'est compliqué l'introspection et de s'écouter. Mais ce qui est aussi compliqué, ce que j'essaye d'expliquer parfois, c'est comment faire pour... arriver à se regarder, comprendre ce qui se passe et petit à petit peut-être se regarder de façon un petit peu plus gentille. Ça te paraît compliqué de faire ce travail-là ?
En fait, ce qui me paraît compliqué, et c'est pour ça, c'est la question du regard. En fait, c'est pour ça que je trouve que l'écoute est parfois plus simple que le regard. Parce que le regard, et en fait c'est un geste très particulier de se regarder dans un miroir, c'est très dur. Par exemple, on le voit beaucoup, l'autre jour j'ai fait cette expérience-là qui va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, c'est que j'ai eu un cours de yoga dans une salle de danse. Et dans une salle de danse, il y a des miroirs. Et c'était une des premières fois que je faisais un cours de yoga dans une salle où il y avait des miroirs. Il s'avère qu'il n'y avait pas de place. Enfin bon, bref, c'était pour des raisons pratiques. C'était pas dans une volonté, c'était un hasard. Le cours n'avait strictement rien à voir. Je pense que l'attention des gens n'était pas du tout la même. Pourquoi ? Parce que le miroir, évidemment, renvoie. Puisque le miroir n'est pas nous. Le miroir est justement cette image-là. Et cette image-là, à la différence d'Instagram, pour en revenir, qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre un filtre, on ne peut pas mettre, ajouter des trucs.
Et du coup, comme quand même et ça nous attire, la vue, on est moins
exactement, on est beaucoup moins sur le ressenti. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve ça plus facile de s'accepter, même si, pareil, il faudrait décortiquer cette phrase, ce que ça signifie, dans le toucher, dans les massages, dans le être bien dans un vêtement, sentir une matière. Je trouve ça plus simple que ce regard. En fait, apprendre à faire preuve de douceur à l'égard de soi, je trouve ça un peu plus facile dans un ressenti que dans ce regard direct dans le miroir. D'accord. Où on se trouvera toujours qu'on a un peu trop de ventre, un peu trop de ceci, une hanche pas droite, enfin voilà, c'est très dur.
D'accord. Et justement, pour revenir, reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure sur les enfants, comment aussi travailler à changer un petit peu notre regard sur les autres et essayer de ne pas juger les autres en fonction de leur corpulence, de leur apparence. Est-ce que ça passe d'abord par le fait d'être bien avec soi-même ou est-ce que ça peut... Comment on peut faire ça? Ça se passe dans quel sens à ton avis?
En fait, je suis très 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 partisane. Je suis très partisane d'une diversité en acte. C'est-à-dire que quand on fait des écoles, il y a deux mots dont on parle tout le temps, c'est la bienveillance et la diversité. Le problème, c'est que c'est deux mots qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire, enfin, qui veulent rien dire et tout dire. Oui, objectivement, j'aime la diversité et j'aime être bienveillante. Voilà. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire vivre aux enfants. Et faire vivre la bienveillance, c'est vraiment être dans la douceur, dans l'écoute de l'autre, dans le respect, dans des actes. La diversité, c'est la même chose. On ne peut pas parler de diversité à des jeunes enfants si en fait tout autour d'eux est normé. Si dans les livres c'est normé, si dans les gens qui voient c'est normé, si... On ne peut pas en fait. Donc plutôt qu'un discours qui va se construire au fur et à mesure, moi j'ai vraiment... On a à cœur de leur montrer des actions. Alors déjà, leur montrer des actions parce que alors ça passe déjà par avoir une équipe autour de nous. Alors je fais un appel s'il y a aussi plus d'hommes éducateurs, ça serait pas mal. Mais d'avoir une équipe qui est diversifiée, d'avoir des livres où bah, y a des enfants plus ou moins gros, plus ou moins minces, plus ou moins grands, qui viennent de différents pays. Bon, donc c'est vraiment ce vécu en fait. Et ce vécu, En leur montrant, en fait, nous, on travaille aussi beaucoup sur différents pays. On travaille énormément, énormément sur l'étranger, etc. En plus, on a plein d'enfants qui viennent de l'étranger. Et en fait, on leur dit pas, regardez, il y a des gens plus gros ou plus minces ou plus noirs.
Ça se fait naturellement.
Ça se fait naturellement parce qu'en fait, on les confronte à plein d'images différentes. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est exactement comme mon vécu de la philo, il est là. C'est juste des pistes, c'est juste des hypothèses. Ouais. Et on leur montrer le plus d'hypothèses possible,
en fait.
Mais
donc, ça va faire des super adultes de demain.
Vraiment, tous les jours, c'est mon combat.
Mais pour les adultes et les femmes d'aujourd'hui, justement, qui vivent dans ce monde normé, est-ce qu'il faut... Alors, on peut travailler à changer le monde et à changer les repères et les références et voir des personnes différentes, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Donc comment vivre, enfin échanger son regard quand même dans ce monde-là.
En se disant, justement, vraiment, c'est la philo, c'est souvent, je dis, c'est pas une méthode, et c'est là où je pense qu'on se rejoint. C'est pas tu vas te lever à telle heure ou faire ceci ou faire cela, non. Par contre, c'est entraîner à changer de prisme et à mettre une autre paire de lunettes. Et en fait, je suis convaincue qu'une des chances dans le monde dans lequel on vit, et honnêtement, actuellement, c'est vraiment le cas, les paroles s'ouvrent, les propos s'ouvrent. On a justement accès à une infinité de contenu. Donc, c'est un entraînement de se dire... sortons, voilà, déplaçons peut-être le regard. Alors parfois c'est dur parce que c'est très dur de déplacer le regard sur sa cellule familiale ou sa cellule professionnelle, mais justement profitons des réseaux sociaux ou d'internet ou dans ce cas-là de positif pour en fait nous montrer plein d'images différentes. Et honnêtement, on peut prendre tout de suite le téléphone et aller chercher la diversité. Donc vraiment cet effort de se dire on construit son regard, allons chercher ce qui nous fait du bien. Allons chercher des gens qu'on est content de lire le matin, des images qu'on est content de voir. Cette diversité, elle existe. Mmh. Donc déplaçons vraiment, vraiment, vraiment notre regard parce que ce vécu, c'est pas juste une construction de tendance, c'est pas dire c'est du body positif ou c'est du machin, c'est du ceci. Non, juste allons chercher et regardons autour de nous. Les gens sont différents.
Mais c'est intéressant, effectivement, construire son regard, changer de lunettes. Mais ce que tu as dit, vers ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet d'avancer et pas effectivement être masochiste et s'abonner qu'à des comptes de nanas qui font 15 heures de sport par jour.
Mais bien sûr, j'ai une discussion avec une copine la semaine dernière qui me dit « J'en peux plus, je suis que des gens qui se lèvent à 5 heures du matin pour faire du kundalini. » Je lui dis « Bah ne les suis plus, en fait. Si ça te fait du bien, c'est formidable. » Si ça, au contraire, ça te motive, ça te dit, ben, oh, génial, moi aussi, je vais faire ça parce que je me sens mieux. Je lui dis, si ça te fait pas de bien, ben, arrête tout simplement de les suivre. C'est possible, en fait. Et c'était l'objet, d'ailleurs, de mon post ce matin sur ce sont des options, en fait. Il y a des options à saisir ou à décliner. Et c'est juste ça. Et dans le rapport au corps, c'est la même chose. Il y a des options à saisir ou à décliner. Donc on peut, et c'est génial si on se sent bien en étant mince et musclé, mais c'est trop bien.
Tout à fait.
C'est-à-dire que formidable.
Mais on a le choix.
Mais on a le choix, en fait. C'est juste
c'est
ça.
C'est très important. D'ailleurs, tu en parlais dans ton post et j'en parle souvent à mes patientes. En fait, c'est un grand mot la liberté, mais en fait, on a toujours des marges de liberté.
Bien sûr.
Et on peut toujours faire un pas de côté et sortir du cadre.
Complètement. C'est pour ça que je précisais, je disais, c'est toujours facile de dire il y a des options. Bien sûr, on a des contraintes et on a tous des contraintes. Sur le corps, c'est d'autant plus le cas. On a des contraintes morphologiques,
absolument.
Génétiques, morphologiques. Moi, je pense que je pourrais absolument tout faire comme régime. Bah, de fait, j'ai quand même une certaine ossature. Donc, bon. Mais parmi ces contraintes, il y a quand même toujours une marge de liberté. Et quels que soient les cas de figure. C'est-à-dire que vraiment, même dans des cas de figure compliqués et arides, au contraire, c'est peut-être là où c'est encore plus intéressant d'aller saisir cette marge de liberté. Et c'est le cas dans le rapport au corps, c'est le cas dans le rapport à l'alimentation aussi. Et encore une fois, aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre dans un monde où il y a quand même beaucoup plus d'options. Donc profitons-en.
Tout à fait, choisir des options. Donc ce que je retiens, c'est effectivement... s'écouter, changer son regard, changer ses lunettes, faire un pas de côté, et puis surtout être dans le fait d'incarner les idées et pas juste être dans les mots que tu parles, comme tu disais sur la diversité, la bienveillance, le traduire vraiment dans des actes concrets.
Exactement. En fait, pour résumer, c'est vraiment faire de la philosophie, mais faire de la philosophie de l'action, en fait, c'est ça. C'est se dire que rien ne nous rend plus libres que la pensée et les actions qui vont découler de cette pensée. Et en fait, ça, tout le monde peut y avoir accès. On a la chance d'avoir dans notre corps un truc quand même assez incroyable, c'est notre cerveau. Et ça, c'est une grande chance. Et tout le monde, et c'est pas une question d'études, pas une question de formation, on peut l'activer à tout moment. Et je crois qu'il nous permet justement de d'étendre l'espace autour de nous. Donc l'introspection, au lieu d'être un truc flippant, est en fait quelque chose qui vraiment agrandit, repousse les murs et nous permet de nous sentir un peu plus alignés et là peut-être un peu plus nous-mêmes.
Super, vraiment merci beaucoup Marie pour toutes ces pensées, tout cet échange. Merci.
Merci.
Vous avez écouté le 38e épisode de BCBT le podcast. J'espère qu'il vous a intéressé et je suis ravie s'il vous a permis de découvrir Marie Robert. Si vous êtes sur Instagram, je vous encourage vraiment à suivre son compte. Il est génial. Et puis peut-être, vous pouvez aussi aller lire ses livres qui intègrent la philosophie dans notre quotidien pour nous aider à mieux vivre. BCBT le podcast est diffusé le premier vendredi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast. Écoutez-le, commentez-le, notez-le, partagez-le. Je suis sûre qu'il peut faire du bien à certaines personnes. À bientôt !